Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
En Afrique, l'industrie du bâtiment connaît une croissance rapide avec l'urbanisation et l'explosion démographique. Toutefois, cette expansion pose plusieurs défis environnementaux. La forte consommation d'énergie, les émissions de CO2, entre autres, posent l'impératif de promouvoir l'adoption de pratiques durables pour bâtir des villes résilientes et respectueuses de l'environnement. Et pour mieux, mesdames et messieurs, comprendre cette nouvelle dynamique durable, nous avons le plaisir de recevoir encore une fois et à nouveau dans notre émission Durabilité, Madame Nawal Saoud, experte en gestion de projets immobiliers. Par ailleurs, présidente du Morocco Green Building Council, actuellement, elle dirige aussi les services du projet et développement de JLL en Afrique du Nord. Bonjour Madame Saoud, est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission Durabilité.
Bonjour Monsieur Tonkara, c'est un plaisir d'être encore une fois parmi vous, comme vous le dites. Donc attention, je risque de prendre l'habitude.
Mais en tout cas, ce sera avec un immense plaisir parce que vos argumentaires sont toujours aussi pertinents et aussi constructifs, toujours dans la durabilité de cette émission et aussi dans la durabilité du monde et du Maroc et de l'Afrique également en général. Vous avez donc une perspective globale forgée à travers différentes expériences professionnelles en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et en Europe. Pouvez-vous nous faire un état des lieux de la construction durable en Afrique, également continent particulièrement vulnérable au changement climatique, et quels sont aussi les défis et les opportunités spécifiques à ce continent?
Absolument. Donc l'Afrique est effectivement en première ligne face au changement climatique, bien qu'elle ne contribue qu'à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La construction durable y joue donc un rôle crucial. Les défis sont nombreux, comme vous l'avez noté. Donc il y a le manque de réglementation stricte, donc avec 26% des pays africains qui ont des codes de construction énergétique obligatoires à date. Il y a les coûts initiaux aussi qui sont perçus comme étant élevés, et puis aussi parfois un manque de sensibilisation sur ces sujets. Les opportunités, comme vous l'avez aussi mentionné, sont importantes. Mmh. L'Afrique a l'avantage de pouvoir sauter certaines étapes et adopter directement des technologies vertes de pointe. Les solutions de construction durable peuvent donc améliorer la qualité de vie, réduire les coûts à long terme et créer aussi des emplois. Donc malgré ces défis, donc c'est les opportunités, elles sont offertes par la construction durable en Afrique, et il est crucial et important de continuer donc à sensibiliser, à renforcer les réglementations et à démontrer la valeur à long terme de ces pratiques pour accélérer leur adoption à travers notre continent.
À travers notre continent, et également vous, en tant que directrice au sein du cabinet de conseil JLL et présidente de l'association Morocco Green Building Council, comment évaluez-vous les progrès en matière de construction durable au Maroc par rapport au reste de l'Afrique?
Je pense qu'on peut dire que le Maroc a fait des progrès significatifs ces dernières années. Pour rappel, le Maroc a accueilli la COP22 à Marrakech en 2016. On a vu aussi depuis l'accélération de l'adoption de certifications environnementales de notre industrie, comme la HQE, le LEED, BREEAM et puis d'autres. Et dans un contexte de croissance soutenue de la demande énergétique, de la dépendance aussi quasi totale du pays vis-à-vis de l'étranger, donc on parle de 90% à peu près, de la fluctuation aussi des prix de cette énergie, notre gouvernement a mis en place des incitations. Donc, il y a la fameuse loi 4709 qui date de 2009 sur l'efficacité énergétique. Il y a le programme national d'efficacité énergétique dans le bâtiment qui vise donc à réduire la consommation d'énergie de 20% d'ici 2030. Donc, ça reste assez ambitieux. Il y a aussi plus récemment donc la réglementation thermique de la construction en Maroc, la RTCM, qui existe depuis 2015 et qui est exigée dans les procédures administratives d'obtention du permis de construire. Donc la réglementation thermique est donc très rentable pour les bâtiments résidentiels et tertiaires. Donc ça, il y a des études qui démontrent qu'il y a certains surcoûts mais aussi des réductions en termes de besoins qui sont plus qu'intéressants. La formation professionnelle joue un rôle aussi très important là-dedans, avec plusieurs milliers de professionnels qui ont été formés, dont 20% qui proviennent de pays africains, par l'Institut de formation en métier des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Donc ça renforce l'expertise régionale. On peut pas, bien sûr, passer sans mentionner le complexe solaire Nour à Ouarzazate, qui est devenu une référence aussi continentale.
Donc, tout à fait. Et aujourd'hui, donc, également, vous avez un profil international par rapport à ce profil, par rapport à cette expérience et cette expertise aussi. Comment voyez-vous l'importance de la coopération africaine dans ce domaine, et en quoi le changement du narratif sur l'Afrique est-il important ?
La coopération est vraiment essentielle. Donc, le changement climatique ne connaît pas de frontières. C'est un problème global auquel on doit apporter des solutions globales. Donc, j'ai eu la chance effectivement de travailler sur des projets dans de nombreux pays africains, donc Maroc, la Tunisie, mais aussi le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Et chaque expérience a un peu enrichi ma compréhension en fait du sujet. Donc, il y a un projet par exemple d'une tour IGH à Dakar où on a eu l'opportunité d'échanger avec des experts sud-africains. Mais aussi marocain en termes de workplace stratégie, d'ingénierie, d'architecture. Puis à l'inverse, l'expertise du Maroc en construction de logements économiques a été utile aussi sur d'autres projets en Afrique de l'Ouest. Donc au niveau international, des initiatives comme celles portées par le World Green Building Council permettent de partager les meilleures pratiques entre villes du monde entier. C'est ce type de collaboration qu'on doit multiplier, bien sûr. On doit aussi décoloniser nos esprits en quelque sorte et reconnaître les forces de l'Afrique. J'aime rappeler certains KPI importants.
Allez-y.
Je ne sais pas si vous le savez, mais au Maroc, par exemple, plus de 42% des diplômés en ingénierie sont des femmes. Alors que la moyenne mondiale est de 28%. Donc je suis assez fière en fait de ce chiffre-là.
Mais vous avez de quoi l'être.
Et puis plus globalement en Afrique, j'ai aussi appris récemment que 40% des chefs d'entreprise sont des femmes.
Tout à fait.
C'est le double de la moyenne mondiale. Donc c'est des chiffres qui sont rarement rappelés en fait dans les médias occidentaux, mais voilà, il faut qu'on les mette un peu plus en exergue. L'Afrique a beaucoup à offrir, et la coopération Sud-Sud, qui ne relève pas juste de l'aide au développement, c'est un véritable échange d'expertise, d'innovation et aussi d'investissement. Au Maroc, ça a été initié par le défunt roi Hassan II, et ça a été encore plus accéléré et soutenu par le roi Mohamed VI. Un peu plus globalement, aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en train de présider le G20 cette année. Donc, c'est une opportunité fantastique pour mettre en lumière les enjeux africains.
Tout à fait.
Leur président a présenté récemment à Davos les priorités. Donc, que ce soit la transition énergétique juste, le financement du développement durable, qui vont avoir un impact direct sur notre secteur. C'est un momentum assez important des politiques pour encourager des investissements accrus, et puis voilà, une politique aussi plus ambitieuse, plus juste dans notre continent.
Et en quoi l'enjeu du développement des compétences est-il si crucial pour le secteur de la construction durable ?
C'est bien sûr un enjeu plus que crucial. Particulièrement en Afrique. Donc, tout d'abord, la construction durable, ce n'est pas juste une question de matériaux, de technologie. C'est avant tout une question de savoir-faire. On a besoin de professionnels qualifiés à tous les niveaux, des architectes aux ouvriers, en passant par les ingénieurs et les gestionnaires de projets. Vous prenez par exemple le BIM, qui est le Building Information Modeling. C'est un outil fantastique pour optimiser la conception et la gestion des bâtiments durables. Mais sans les professionnels formés pour l'utiliser efficacement, ça reste juste un logiciel coûteux. Donc, il faut aussi comprendre que la construction durable, elle évolue très rapidement. Ce qui était à la pointe il y a 5 ans était déjà dépassé aujourd'hui. Donc, la formation continue, elle est essentielle. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. En Afrique, on a un défi supplémentaire. On doit adapter les techniques de construction durable à des réalités locales. On ne peut pas juste faire du copier-coller de ce qui se fait en Europe ou aux États-Unis. Il faut des professionnels locaux capables de combiner les meilleures pratiques internationales, mais les adapter aussi au savoir traditionnel africain. Et puis il y a l'aspect économique aussi. Donc le développement des compétences, c'est aussi la création d'emplois qualifiés. Donc c'est un levier assez puissant pour le développement économique de notre pays.
Tout à fait.
Donc, il faut y investir, il faut investir dans la formation, il faut développer des programmes de mentorat, des partenariats avec des universités, des ateliers pratiques sur chantier. Donc, avec le MJBC, on veut vraiment créer une nouvelle génération de professionnels de construction durable en Afrique. Mmh. Mais voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont à faire et qui sont à activer, mais ce n'est pas que des compétences techniques. Il y a aussi besoin de développer des soft skills, donc la collaboration, la communication, la pensée systémique. Parce que la construction durable, c'est un effort collectif.
Tout à fait.
Et c'est aussi un cercle vertueux. Donc plus on développe des compétences, plus on attire des projets innovants.
Et puis également, on œuvre dans une optique de développement et aussi d'innovation technologique aussi. Et justement, dans ce cadre, Madame Saoud, quelles sont les technologies prometteuses pour la construction durable en Afrique ?
Ah, il y en a tellement. Il y a beaucoup d'innovations passionnantes. Il y a les technologies de construction hors site qui gagnent du terrain, permettent une qualité et additionnelle, moins de gaspillage, l'impression 3D aussi, qui est assez prometteuse, notamment pour créer des composants sur mesure. Bon, ça, c'est pas encore tellement répandu en Afrique. Mais il y a surtout le système de gestion technique du bâtiment, donc qui intègre la gestion de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation dans une plateforme unique. Avec des capteurs IoT et des algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser donc, en temps réel la consommation d'énergie en fonction de l'occupation et des conditions climatiques. Mais ce qui m'enthousiasme le plus, ce sont les technologies qui s'inspirent des savoirs traditionnels. Donc, prenez par exemple des systèmes de climatisation passive inspirés de techniques ancestrales, mais optimisés grâce à la modélisation informatique. Mais bon, attention, la technologie, c'est qu'une partie de l'équation. Il y a un vrai changement dans notre industrie. Ils doivent réaligner donc, leur stratégie avec une main-d'œuvre moderne. Et la technologie, elle est au cœur de ces opérations-là. L'important, donc, c'est juste de continuer à travailler dur, d'apprendre constamment et d'améliorer.
D'améliorer aujourd'hui aussi, malgré les obstacles dont fait face le Maroc et l'Afrique de manière générale, et même le monde entier, quelles sont les raisons d'être optimiste pour l'avenir de la construction durable en Afrique ?
Alors oui, moi je suis quelqu'un de profondément optimiste. J'adore une citation de David Lynch qui est mort il y a quelques jours en fait, qui disait « Negativity is the enemy of creativity ». Donc on voit une nouvelle génération d'architectes et d'ingénieurs africains passionnés donc, par la durabilité. Les gouvernements prennent de plus en plus conscience de l'urgence climatique. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Donc ils mettent en place des politiques favorables. Puis il y a surtout une incroyable créativité dans les solutions proposées. Prenez des projets comme Eco Atlantic City au Nigeria ou l'éco-cité de Zenata au Maroc, donc plus proche, qui montre une ambition sur le continent. Il y a les entreprises et les organisations qui doivent rester donc engagées en se concentrant sur l'impact à long terme et puis en collaborant aussi avec l'écosystème local. Les défis auxquels on est confronté pour atteindre les objectifs de neutralité carbone nécessitent indéniablement des efforts collaboratifs donc de tous. L'appel à l'action est clair. On doit embrasser l'innovation, promouvoir des pratiques durables et donner la priorité au bien-être de notre planète et aux générations futures.
Aux générations futures, mais également tout cela grâce à des femmes comme Madame Nawal Saoud, qui également est experte en gestion de projets immobiliers, par ailleurs présidente du Morocco Green Building Council. Actuellement, il dirige aussi les services de projets et développement de JLL en Afrique du Nord, comme pour montrer également que les femmes sont toujours au devant de la scène et de manière très positive. Elle œuvre à sa manière aujourd'hui à promouvoir les constructions durables, mais aussi à promouvoir une Afrique saine, un Maroc sain, mais aussi des constructions capables de durer dans le temps, dans l'espace, mais également de faire face aux réalités climatiques, entre autres. Toujours un plaisir de la recevoir dans la durabilité de sa confiance et de son expertise. Merci encore à vous, Madame Nawal Saoud.
Merci à vous, Monsieur Tonkara. C'était un plaisir.
Le plaisir est pour nous. Toujours un plaisir de vous accueillir dans cette émission et également à vous, chers amis auditeurs. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro dans votre émission Durabilité. Au plaisir.